24 juin 2022 et il est 17h en temps universel, 13h ici à Washington. Bienvenue à l'écoute de ce tour d'horizon de l'actualité. Au micro, Jacques Aristide. La Cour suprême des États-Unis a enterré un arrêt qui, depuis près de 50 ans, garantissait le droit des Américaines à avorter. Le jugement ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, mais renvoie les États-Unis à la situation en vigueur avant l'arrêt emblématique Roe v. Wade de 1973. Quand chaque État était libre de les autoriser ou non. Le Missouri indique être le premier État à interdire l'avortement après la décision de la Cour suprême. Il est temps de rendre la question de l'avortement aux représentants élus du peuple dans les parlements locaux, écrit le juge Samuel Alito au nom de la majorité. Dès l'annonce aujourd'hui, des pros et anti-avortement ont afflué vers le temple du droit, ici à Washington. Pour l'ancien vice-président républicain Mike Pence, un fervent chrétien, l'arrêt répare une erreur historique. Le groupe d'opposants à l'avortement Pro-Life Campaign évoque une journée mémorable pour les droits humains. Quant à la principale organisation de planning familial du pays, elle a promis de continuer à se battre pour garantir l'accès à l'avortement. Pour sa part, l'ancien président démocrate Barack Obama parle d'une attaque contre les libertés fondamentales de millions d'Américaines. Le président Joe Biden, qui a promis d'agir par décret pour protéger l'accès à l'avortement, vient de s'exprimer sur le sujet. La décision de la Cour suprême, dit-il, est une erreur tragique et le résultat d'une idéologie extrémiste. Nous reviendrons un peu plus en profondeur sur la déclaration du président Biden dans le prochain bulletin. Ailleurs dans l'actualité, début du sommet de deux jours du Commonwealth à Kigali, au Rwanda. À l'ouverture aujourd'hui, le prince Charles a affirmé que les États membres étaient libres d'abandonner le giron de la monarchie. La grand-messe se tient en pleine polémique sur un accord d'expulsion de migrants clandestins du Royaume-Uni vers le Rwanda. En marge du sommet, la République démocratique du Congo a demandé au Royaume-Uni de condamner le Rwanda qu'elle accuse d'agression dans l'Est congolais et de soutenir le groupe armé du M23, ce que dément Kigali. À noter également que la secrétaire générale du Commonwealth, la britannico-dominicaine Patricia Scotland, a été réélue, mettant fin à des mois de campagne parfois tendus. Le sommet doit s'achever demain lors d'une journée qui verra l'intégration de deux nouveaux membres, le Togo et le Gabon, pourtant deux anciennes colonies françaises. Pour revenir à la RD Congo, une cour militaire du pays se déclare incompétente pour juger des militants des droits de l'homme poursuivis pour s'être opposés à l'état de siège dans l'est du pays. Hier, les juges militaires siégeant en appel ont annulé la condamnation à un an de prison ferme des 12 militants du mouvement Lucha, lutte pour le changement. Ils ont renvoyé l'affaire devant des juges civils. Début de la campagne pour les élections législatives et locales du 10 juillet prochain au Congo-Brazzaville. Un double scrutin boycotté par une partie de l'opposition. Plus de 2000 candidats sont concernés par les législatives pour 151 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Chacun des candidats payait une caution non remboursable d'1,5 million de francs CFA. Le président nigérien Mohamed Bazoum et son homologue ivoirien Alassane Ouattara disent vouloir harmoniser leur point de vue avant le prochain sommet des dirigeants ouest-africains où la question des sanctions contre le Mali va être au cœur des débats. Le chef de l'État nigérien était en visite hier à Abidjan. Les dirigeants de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, doivent se réunir à Accra le 3 juillet pour évoquer la conduite à tenir à l'encontre du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, trois pays de la sous-région où les militaires ont pris le pouvoir ces dernières années. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé plus d'une vingtaine d'agriculteurs dans leurs champs à la périphérie d'Abuja, dernier kidnapping d'une longue série dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Dans 25 minutes, vous avez rendez-vous avec Le Monde Aujourd'hui qui vous sera présenté par Abdourahman Dia. Quant à moi, Jacques Aristide, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans exactement 55 minutes. Très bonne écoute sur VOA Afrique. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
La Minute Éco, Nathalie Barge. Au Rwanda, la première usine de vaccins à ARN messager d'Afrique a été inaugurée hier à Kigali par le président Paul Kagame pour produire des traitements contre la COVID-19 et d'autres maladies d'ici 2024. Le laboratoire allemand BioNTech, qui va embaucher et former une centaine de personnes pour cette usine, va en installer deux autres en Afrique du Sud et au Sénégal. Au Cameroun, les travaux de remise à niveau du terminal à conteneurs du port autonome de Douala ont été lancés. Ils devraient s'étendre sur deux mois pour un coût de 473 millions de francs CFA. L'objectif est d'améliorer la fluidité et la sécurité des opérations et d'accueillir un volume plus important de marchandises. Le gouvernement éthiopien a appelé l'Union européenne à revoir sa position en faveur du Caire concernant le grand barrage sur le Nil. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a assuré hier que l'Éthiopie désirait coopérer avec les pays riverains du Nil. L'objectif de production initiale de 6 500 MW a été revu à la baisse à 5 000 MW.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.
Aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information. Les nouvelles du monde, le suivi de l'actualité africaine, des reportages, des interviews, des analyses sur les sujets qui vous concernent. En direct de Washington, nous décryptons pour vous la politique américaine. Le Monde aujourd'hui, du lundi au vendredi à 17h30, 18h30 et 19h30, temps universel sur VOA Afrique. Retrouvez-nous également sur notre site internet voafrique.com et sur Facebook. À bientôt.
Napogeuka moto